Qui c'est celui-là ?
Il a une drôle de tête, ce type-là.
Une émission d'entretien.
Et puis sa bagnole, les gars.
Avec quelqu'un.
Ça se passera pas comme ça.
Si je suis tombé par terre, c'est pas la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, y'avait pas de l'eau. S'il y a pas plus d'anges dans le ciel, sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto ? Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse qui est de pas laisser à ces messieurs qui légifèrent le soin de me balancer des ancêtres. On a beau être une rive gauche de la Garonne.
Il a écrit et interprété une centaine de titres dans les 6 albums de Zebda, La Reine des Rumeurs, Le Bruit, L'Odeur, Essence Ordinaire, Utopie d'Occase, Second Tour, Comme de Chiroki. Y a pas d'arrangement, Tomber des nues, Je crois que ça va pas être possible, Le Petit Robert, Le Théorème du Châle et même le fameux Tomber la chemise, c'est lui. Il a écrit 2 récits, Livré de famille et La Trempe. Il a enregistré et tourné avec 2 albums solo, Cité des Étoiles et Pas en vivant avec son chien. Son 3e récit, publié en 2016, Ma part de Gaulois, chez Actes Sud, a été en lice pour le Goncourt des lycéens, pour finalement obtenir le prix du Parisien Magazine. Il présentera fin mars son 3e album, catégorie Rennes. Magie de chère fille sera le samedi 25 février à 19h30 à la commanderie de Vaour pour un spectacle de lecture musicale, Longue Haleine. Un spectacle où Magie de chère fille met en image son répertoire littéraire et musical, ses albums solo et Zebda. Magie sera aussi sur les ondes de CFM à 15h le 25 février pour une heure de confidence. De naze, si vous n'avez pas pris les places pour ce soir, 19h30 à Vaour, c'est pas la peine, c'est à guichet fermé, comme en gros tout ce que fait Magie de chère fille depuis quelques temps, parce que qu'il soit au Rex, au Royal, un peu partout, il prend une date, 2 dates, 3 dates, c'est complet à chaque fois, mais comme il a un spectacle qui mériterait pas, l'acoustique phénoménale d'un Bercy sonorisé pour Bigard, il aime bien voir les gens dans les yeux, Magie de chère fille. Bonjour.
Bonjour, Johan.
Ça va bien ?
Oui, très bien, très bien.
Alors moi, vous pouvez pas savoir ce que je ressens là. Moi, j'ai l'impression de recevoir Georges Brassens et d'être Jacques Chancel.
Eh ben, écoute, je suis touché.
Ça me fait pareil, mais pour l'instant, c'est juste Walter Hugo que je reçois.
Ouais.
Walter Hugo, le mec qui écrit des trucs sympas, et ça l'énerve.
Ouais, non, ça m'énervait.
Ah ouais, ça a passé.
Ça m'énervait, mais en réalité, depuis longtemps, j'ai trouvé que c'était un adjectif qui m'allait très bien. Parce que il arrive que des individus aient envie de devenir des génies. Moi, on me s'est dit, je vais être cosmonaute, pompier. Moi, j'ai voulu être Flaubert. Et donc, c'est la misère, parce que quand vous voulez l'être à 14 ans...
mais alors, à 14 ans, Flaubert, mais c'est définitif, c'est toujours Flaubert ?
Non, c'est un peu de mythologie, mais c'est mon bouquin préféré.
Ouais.
Je crois que c'est au fond mon bouquin préféré. C'est un bouquin dans lequel il y a tout à l'intérieur. Il y a voilà, il y a l'ennui, il y a l'amour, le désarroi, l'espoir, la colère, tout ce qui fait une vie en fait. Et donc, évidemment, je suis pas devenu Flaubert, même à 50 ans. Et finalement, n'étant alors, je sentais quand même qu'il y avait quelque chose de j'ai failli dire de sympathique dans ce que j'écrivais, et donc ayant compris que c'était pas non plus du génie, je trouve que cet adjectif sympa me va finalement à merveille.
Mais alors dans tout ce que vous écrivez, on a vraiment le constat que l'écriture est venue grâce à la lecture. Et que par rapport à tous vos copains de l'époque, ouais, et je sais que dans Ma part de Gaulois, vous racontez comment ils supportent mal que vous passiez votre temps à plonger dans des bouquins, comme on peut avoir aussi dans plein de familles. Hein. Pourquoi tu joues pas au ballon ?
Voilà, c'est ça.
Voilà.
En fait, c'est l'histoire du faillot du quartier. Et dans tous les quartiers, il y a un faillot, il y a un mec qui a des bonnes notes.
Ah, c'est pas seulement un faillot. Moi, j'ai pensé au récit de vie de Louise Liac, qui a découvert le piano parce qu'il supportait pas, justement, de courir après un ballon. Ouais. Donc, en douce, pendant les cours de gym, il allait jouer du piano dans le petit théâtre de son collège privé.
Ouais.
Et c'est devenu musicien hors pair.
Ouais.
Donc, un écrivain, ça vient là aussi parce que ça pioche ce que les autres ont écrit avant lui. Et il se projette des images.
Alors, ça dépend. Moi, je pense que je dois tout ça à ma mère, qui, elle, n'a pas supporté tous ces mômes dans la rue, dans cette rue Raphaël. Elle voyait tous ces enfants qui étaient déjà, dès le CP, le CE1, le CE2, c'était déjà la dérive. Et déjà, bon, les mecs partaient à la pêche. Et moi, j'étais avec des mecs qui entraient à l'école élémentaire avec des cannes à pêche, des fraudes. Et je trouve ça hallucinant. Si ma mère me voit entrer avec une canne à pêche en classe, elle me coupe la tête. Et donc, je trouvais ça totalement fou. Et ma mère trouvait ça fou. Et elle s'était jurée, moi, mes enfants, ils seront des étoiles. Et quand une mère vous dit ça et que vous avez 11, 8, 9 ou 10 ans, ça vous fait quelque chose.
J'ai longtemps maudit ma mère de m'avoir tant couvé dans les cités, ça ramollit l'âme, ça vous fait poli, poète et merdeux, détesté de la bande.
Ouais, ouais.
Alors c'est à la page 13 de ma part de Gaulois, d'emblée, ouais. on situe pourquoi le petit Magide, qui s'est francisé avec un Y d'ailleurs.
Américanisé,
ouais. C'était la mode, Walter Hugo,
voilà.
on était là-dedans. Ça, d'ailleurs, faudra m'y faire penser, j'ai des questions à poser sur l'américanisation, parce que quand même, c'est au Brassens, au Brel, au Ferré, au grand chanteur poète français.
C'est venu plus tard.
Qu'on a été. Ah, c'est plus tard.
Et oui, parce que moi, à 12 ans, enfin, 10, 12 ans, c'était Claude François,
Mike
Brandt, Dave, Sheila, Ringo,
ce qui passait à la radio et à la télé.
Voilà, il y avait, c'était comme une seule radio à toutes les fenêtres, une seule onde et la même chanson qui cramait nos têtes tout le long de la rue. Et donc c'est ce que j'ai écouté en premier.
Et alors bon, ça parce que c'était télé et radio, mais alors le petit décalage.
Alors l'adolescence, on veut quand même, bon, on est chaud, on a le sang chaud, et puis les filles nous défrisent les cheveux, quoi. Et donc, il faut faire le cake. Et l'adolescence, eh bien, c'est l'identification noire américaine. Alors, c'est James Brown, c'est Mohamed Ali, c'est aussi Bruce Lee, bon, c'est le Jackson Family. Et donc
tout le contraire du PD quand même, hein.
Absolument.
C'est les épaules larges, je roule les mécaniques et tout là.
Oui, mais d'ailleurs PD c'était pas la connotation homosexuelle, c'était
efféminé,
pas viril, voilà.
Voilà.
Ouais.
C'était pas efféminé, c'était pas viril quoi.
Pas viril.
Le mec qui est pas dans les vestiaires, voilà. Chanter, on a gagné, tout ça.
Voilà. Et donc t'es pas un homme.
Voilà. Et alors comment on vient de tout ce qui passe à la télé, tout ce qu'on entend à la radio, à des artistes qu'on entend peu à la télé, peu à la radio, des Gelaine, des Lavilliers, ils faisaient des chapiteaux combles, mais pas chez Guilux, quoi.
Et absolument. Eh bien, alors, moi, il faut imaginer, donc on est dans les quartiers nord de Toulouse, donc moi, dans ma rue Raphaël, c'était un petit bout d'Algérie. Les Français n'y entraient pas, et nous, il nous fallait quasi un passeport mental pour sortir, aller en ville. Puis après, il y a le collège, donc il y a quand même des Français, faut pas déconner, mais tous les membres des quartiers sont dans ce collège, et on garde le espèce de parfum de quartier, on reste entre soi.
Le collège est à nous, et puis c'est tout.
Le collège est à nous, il fait partie du quartier.
On est chez nous.
Ouais. Exactement. Et en cinquième, à l'époque, les cinquièmes de transition, débarrasser le collège de tous les Arabes. Quatrième CPPN et les derniers restants. Troisième CPA, plus personne. Et ma mère, qui tient la rampe, arrive à me faire passer en seconde. Et c'est en seconde que je découvre la France. Plus de rebeux que des blondes. Et des blondes qui vous disent, c'est mon anniversaire. Tu viens à la maison. Et nous, dans les quartiers, les filles, elles te disaient pas, c'est mon anniversaire, tu passes à la maison, sinon tu te faisais séparer les testicules du reste du corps.
Alors ça, c'est un truc qui est effrayant, parce que moi, j'ai connu le quartier des Isards à cette époque-là. On le devine pas. Quand on va voir un copain, on fait pas attention à ce qui se passe autour. Bon, le copain, il est beurre, on dit à l'époque, puisque c'est le moment de la marche pour l'égalité que les journaux ont vite fait de baptiser la marche des beurres.
Ouais.
Et on se dit pas, on est un Céfran, parce que c'est le verlan pour dire ça, quoi.
Ouais.
On n'est pas les tout ça. Bon, alors quand t'es enfant d'immigré comme moi, mais que ça se voit pas, parce que t'es enfant d'immigré européen, toi tu te sens avec des immigrés, c'est tes frères. Ouais. Mais quand ils te renvoient le côté, ouais, mais toi t'es blanc, c'est plus facile pour toi, tu te dis, putain, c'est vrai, quoi.
Oui.
Comment alors du coup tu te jettes sur des bouquins comme ça, comme Ma part de Gaulois, ou si t'es des étoiles, tu essaies de prendre l'univers de quelqu'un qui vit un rejet.
Oui.
Et alors, alors entre le lycée où on est admis par les copains qui politisent à l'époque, tout ça, bon, je suppose que c'est Brassens, c'est Le Forestier, c'est des choses comme ça.
Voilà.
Et puis on rentre le soir à la cité et là on serre les fesses.
Et ben alors on devient de plus en plus un étranger, parce que on s'imprègne.
Vous dites,
on se dit c'est super. Moi
dites...
quand j'entends les Sex Pistols, je me rappelle au lycée, et je me dis mais c'est bon ça. Et alors c'est une espèce d'énergie qui est balancée, et je me retrouve avec des potes hyper sympas, des petits, un peu bourgeois, et qui me disent nos futurs. Et des membres à qui il manquait rien. Et moi à qui avait presque eu faim dans la vie, je me disais, mais moi, je veux un futur. Et donc, je trouvais ça absolument génial qu'on manque de rien et qu'on veuille qu'il n'y ait pas d'avenir, quoi. Et alors, je suis rentré en amour devant cet état d'esprit-là. Et on suivit les Ferré, Brassens, Renaud, Higelin, Lavilliers. Et donc, c'est là, j'entre en France et je découvre la chanson à texte, la chanson engagée, le rock blanc, disons, d'Angleterre. Voilà.
Et en même temps, cette francisation, elle est d'autant plus, passionnelle que tout ce que vous venez de citer, là, ce sont des grands artistes français, alors que la plupart des générations entendent de l'anglo-saxon dans tous les médias. Hein ?
Oui, mais moi, fils d'Algérien, je suis rentré là-dedans... comme un prêtre qui cherche son Dieu, quoi. Et moi, mon Dieu, ça devait être la lettre. Et il faut pas oublier qu'on débarque vierge de tout patrimoine, parce que nos parents ne savent à peine qui sont leurs propres parents. Ils descendent de la montagne Kabyle et ils ne savent rien. Alors, ils nous le disaient pas, mais grosso modo, c'est chers enfants, on n'a rien à vous raconter. On a juste eu le temps de naître et de crever la dalle avant de venir ici. Et alors, on est quoi? On vient d'où? On se réfère à quoi? Donc, quand on entre dans ce patrimoine français de ces 2000 ans d'histoire, évidemment, on prend tout parce que tout est vierge et on se dit, bon, ben, tout est bon là-dedans. Et on prend même ce qui n'est pas bon.
Ah, c'est quoi ça?
Ben, dans l'histoire de France, comment s'appelle-t-il? Ce résistant lyonnais. Assassiné par la Gestapo.
Jean Moulin.
Et
le général Bugeaud.
Et oui, enfin, le maréchal Pétain.
Et le maréchal Pétain, et oui.
Et donc, dans l'histoire de France, il y a ces deux-là. Et moi, j'ai pas envie de dire je prends le bon et je lâche le mauvais. Si je suis français, si j'aime la France, je prends la France en entier. Et donc, j'ai appris à tout prendre. Parce que au fond, je suis devenu Majid par la France, par ses principes, par sa laïcité, par son école gratuite, républicaine, obligatoire. Et donc, on est ou on se fait comme on peut. Moi, je me suis fait par l'école. C'est l'école qui m'a fabriqué.
Oui, parce que c'est pas les parents qui ont même pas pu transmettre cette grande espérance qui leur a fait traverser la Méditerranée, de se dire, dans nos collines, là, on vit pas, on entend dire que là-bas, ils ont besoin de bras, on va y aller, on verra bien. On ne soupçonnait pas qu'on serait pas dans une villa avec un beau jardin et qu'il y aurait un brassage qui irait de soi. On n'imaginait pas qu'on nous empilerait.
Ouais, ouais. Il se doutait quand même qu'il ne serait pas accueilli par des hurrahs et des bienvenus. Il sortait de la guerre d'Algérie, donc esclave chez eux, et puis esclave chez les autres.
Mais ils n'ont même pas pu transmettre à leurs enfants l'idée qu'à un moment donné, il y a eu un espoir, un Eldorado occidental, dans lequel leurs enfants au moins pourraient se fondre, à part maman.
Pour mes parents, je pense qu'ils, si vous voulez, ils sont venus en se disant « on repartira chez nous ». Donc, ils ont pas ça
de commun avec les Espagnols de 39.
Certainement.
Qui disaient qu'à la fin de la guerre, en 45, on irait régler son compte à Franco, et voilà. Du coup, on reviendrait là-bas, et même, on s'engageait dans les combats de la résistance.
Ouais.
Mais alors,
Donc, on pose pas de jalons. On se fait un petit pécule, et on va construire notre Eldorado.
C'est ça, oui, on n'achète même pas un carré de jardin.
Mais non, surtout pas.
La terre, c'est pas la France.
Oui. Imaginez-nous, quand on a acheté une maison au début des années 80, quand on a déménagé, partout dans la cité, bruissait la rumeur de... Ils sont devenus français. Donc, des traîtres.
Des traîtres.
Ouais.
Ah ouais, là, le mot est clair. Quoi.
Ah, le mot est clair.
Ouais. Et d'ailleurs... Alors moi, ça, c'est la fameuse interrogation qu'on vous a posée régulièrement. 81, 10 mai 81, avec les potes de gauche au lycée, c'est un espoir.
Ouais.
Mais Mitterrand à la maison, c'est le ministre de l'Intérieur qui a coupé les têtes. Et ouais. Ça, c'est un truc, c'est l'absence de connaissances historiques qui fait que c'est incompréhensible.
Oui, ils avaient un nom, François Mitterrand. Et ils n'en voulaient pas tant aux soldats. Cet homme-là qui était ministre de l'Intérieur, qui clamait l'Algérie française pour toujours, et qui a remis en marche la guillotine pour couper la tête à tous les résistants du FLN. Et moi, mon père avait perdu quatre frères, lui, pendant la guerre d'Algérie, donc il a fait partie de ces gens qui ont été marqués. Et donc, au lycée, tous les potes de gauche, d'extrême-gauche, nous disaient... Mitterrand au pouvoir, vous allez voir, vous, les Arabes, la fraternité, ce que c'est que la vraie fraternité, désormais. Et j'arrive le soir à 17h et mon père dit, bon, on fait les valises, Mitterrand va gagner.
Eh ouais, ça lui choque, ça.
Mais, voilà, c'était pas tant de la gauche dont ils avaient peur, beaucoup d'Algériens, pas tous, hein, mais beaucoup d'Algériens, c'était pas tant de la gauche que d'un homme, un nom, en fait. Alors je vous dis pas, quand il a aboli la peine de mort, ils sont tombés à la renverse. Mais c'est quoi ce mec ?
Bon, depuis le début de cet entretien, Majid, je vous vois parce que le chapitre sur le tutoiement de votre père, c'est quelque chose qui m'a bouleversé, moi.
Oui.
L'idée qu'en tutoyant quelqu'un, on ne transmette pas de la fraternité, mais du mépris, presque de l'humiliation.
Ben oui, parce que si vous voulez, le tu... Et le « vous » valent ce... J'allais dire, dépendent de qui les transmet. Et donc, il y a un « tu » qui... Il y a un « tu » humiliant qui est souvent adressé à l'arabe, pendant que l'arabe, lui, essaie de « vous voyez » parce qu'on lui a dit qu'il y avait des règles, mais que parce que les Algériens ont quand même été sous la République des sujets, pas des citoyens.
Oui, c'était pas le même collège.
C'était pas le même collège. C'était ou des citoyens de seconde zone. Et donc on a essayé de leur faire entrer dans leur tréfonds l'idée qu'ils étaient quand même une espèce en dessous. Et ce tu a joué un peu ce rôle parce que le Français a tutoyé l'arabe avec l'injonction pour l'arabe de vous voyez le blanc.
Et alors ça, c'est quelque chose que vous entendez toujours, parce que on en parle très souvent dans les contrôles aux faciès, que ce soit en banlieue ou ailleurs, le policier qui tutoie,
ouais.
Il se positionne comme ça.
Absolument. C'est un héritage de vieilles méthodes, d'un vieux parfum de colonisation. Et oui, l'arabe et le noir, jeune et banlieusard, est tutoyé et rudoyé ensuite. Et donc, il y a quelque chose dans la rue, si vous voulez, qui fonctionne pas dans la rue française. C'est le blanc est légitime et l'arabe et le noir ne le sont pas. aussi français, intégré, érudit, citoyen et honnête qu'il soit, il y a quelque chose de la légitimité qu'il n'aura jamais.
Oui, c'est un truc qu'on a constaté avec horreur. Une ministre de la Justice, sous prétexte qu'elle faisait passer un texte de loi qui permettait le mariage pour tous,
ouais,
qui se faisait traiter de macaque.
Ouais, ouais.
C'est un truc impensable, ça, en France, croyez-donc.
Non, pas impensable. Parce qu'il y a une France qui dit pas son nom, en fait. Et il faut pas avoir peur de le dire. Il y a une espèce de moitié progressiste qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de...
De travailler même sur soi.
Ouais, de travailler sur soi. Absolument. Et elle existe, elle est là. Nous, on les rencontre... D'ailleurs, on ne vit qu'avec eux, puisque...
C'est le public de Zebda, qui vient sauter fraternellement.
Voilà, voilà, voilà. Entre autres, et tous ceux qui aiment l'idée de la fraternité, sans exclusive. Et puis, il y a une autre moitié qui dit non, nous voulons catholiques blancs et éternels. Et donc, et puis alors, on a accroché cette idée au peuple français.
Et surtout pas le métissage.
Oui,
rester pur.
Oui, oui.
C'est ça. Et c'est donc, du coup, on a peur de tout ce qui vient de dehors.
Voilà, et la peur s'est installée, nourrie par des politiciens, de gauche comme de droite, qui n'ont jamais réussi à préconiser de manière frontale l'idée cosmopolite. Chers amis, chers peuples, ce sera ça ou rien. Parce que si vous ne voulez pas du mélange, il viendra de lui-même. Et si vous l'anticipez, il donnera jour à la fraternité.
Alors moi, il y a une chose qui m'a toujours frappé dans les concerts où j'allais probablement en même temps que toi. Parce que si tu permets, à partir de maintenant, on va se tutoyer, hein.
Allons-y.
Si tu permets.
Chouette.
À la sortie d'un concert de Renaud, comme d'un concert de Lavilliers ou d'un concert d'Igelin, ouais, moi je voyais une grande fraternité parmi une foule de jeunes qui portaient en germe leur adhésion à ce qu'ils venaient d'entendre. Et du coup, c'était cette France-là dans laquelle moi j'avais les frissons d'être membre. Et je me disais, on va pouvoir changer les choses, on va pouvoir sortir de cette peur de l'uniforme, de l'autorité, des CRS, de l'armée, de l'ordre établi, qui nous empêche d'eux. C'est notaire.
Ouais. Je pense que j'étais comme toi. Je me suis dit, ça va le faire. Parce que il y avait de l'ébullition.
Et avec Zebda, pour la première fois, moi, j'ai vu des jeunes, toute une tranche générationnelle, adhérer, sauter ensemble, être heureux d'eux, sans que ça soit ni communautariste. Il n'y avait pas que des beurks qui sautaient à Zebda aux premiers albums.
Ouais.
Et je me disais, ça y est, quoi. La fusion est là.
Ouais.
On est de plus en plus nombreux. On vit pas exactement les mêmes choses, mais on est capable d'entendre ce que les autres vivent et d'en faire un front commun. Et puis on en est toujours là.
Oui, parce que si tu veux, là où on s'est trompé, c'est que il fallait pas se fier à des arbres qui cachent la forêt. Zebda, Carte de Séjour, Abdelmalik, des tas d'artistes comme ça, d'expressions françaises ou de chansons françaises. On n'était qu'un échantillon. On a oublié qu'il y avait une armée de mômes exclus qui n'avaient pas droit à ces spectacles, qui n'avaient pas accès à ce à quoi nous avions accès, nous, puisqu'on s'est retrouvés dans les salles de concert, dans les salles de spectacle diverses. On a oublié l'immensité.
Oui, mais en même temps, quand vous faites, si je peux me permettre, un carton avec Tomber la chemise, que même pour les fêtes de mariage, les gens chantaient ça exactement comme aujourd'hui, c'est du quand tu pètes et trousses en slip, hein,
sans
entendre les textes.
Tu l'as dit,
ça vous a énervé, ça.
Et oui, parce que j'ai compris que ça devenait quand il pète, il trousse son slip. Et donc, je me suis dit, merde, c'est la bande à Basile ou quoi.
Mmh.
Et alors, quand on avait comme moi l'idée d'être dans quelque chose de beaucoup plus subtil ou de sensible, et qu'on s'échine à écrire des textes pour faire émerger du sensible, tout à coup on est sur un sous-vêtement qui dégage des gaz horripilants, et donc on se dit merde, on est un peu passé à côté, même si je redis pas cette chanson parce que c'est une chanson de fête, mais elle a effacer le reste du répertoire un petit peu.
Bah oui, c'est pour ça que quand vous alliez en télé, vous disiez, mais c'est pas pour chanter que celle-là. Hein,
voilà. Ouais. Bon. Et que l'immense majorité majorité, enfin, le grand public a retenu cette chanson-là. Et donc, j'ai eu un picotement au cœur, effectivement.
Alors, parce que, quand même, c'est une émission où on en profite pour entendre les choix musicaux de l'invité. La première chanson que j'ai prévue parmi les trois ou quatre que tu as proposées, c'est une chanson tellement universelle, tellement tendre, que je suis sûr que tu aurais aimé l'écrire. Et si on la reconnaît pas au bout de trois notes, c'est que vraiment, on vient d'une autre planète.
Ouais.
À m'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc, et les mistral gagnants. Marcher sous la pluie, cinq minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les mistral gagnants. À m'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Et si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les mistral gagnants. Mistral gagnant.
Qui c'est celui-là? Toujours en compagnie de Magid Cherfi. Tranquille, hein, qui est ce soir à Vaour, mais c'est pas la peine.
Qui a chanté Qui c'est celui-là?
Ben Pierre Vassiliou.
Pardon, je vais te faire un quiz. Ben
Pierre Vassiliou, d'ailleurs on a une pensée...
Pardon Joël, je t'ai sous-estimé.
On a une pensée émue pour Pierre qui est décédé après une longue maladie il y a moins d'un an quand même.
Ouais.
Moi j'ai un truc à te faire entendre.
Ouais.
Ça va t'énerver, mets le casque.
Énerve-moi, vas-y.
Vas-y, tu vas voir.
Mais laisse-moi parler, merde!
Voilà, ça c'est un truc qui est sur internet, la fois que t'es allé signer, faire une dédicace à ma part de Gaulois dans le bureau de tabac
de l'Archat
Journaux de la Lande, le plus proche de la cité des Isards, et il y a une délégation des Isards, d'un club de foot,
avec
des t-shirts et tout ça, qui se disait, ben c'est bien, on va le faire chier, voilà, et puis on va filmer ça, puis on va le mettre sur internet, et quand on fera une recherche Magid Cherfi, on le verra exaspéré de pas pouvoir en placer une.
Oui.
Alors ça, j'ai l'impression que c'est le truc qui doit t'énerver le plus sur Terre, c'est quand on te conteste quelque chose et qu'on te laisse même pas la possibilité de t'expliquer parce que ça renvoie à loin quand même.
Ouais, à 35 ans passés, ouais. Mais mais c'est pas beau quand on braille de toute façon. Et alors comme tout le monde braillait, je me suis mis à brailler, donc nous étions pas beaux, les uns et les autres. Et après, bon, mais voilà...
Mais alors sur des sujets vachement pertinents. Hein. Mais non, t'étais pas le seul à avoir le bac, qu'est-ce que tu crois?
Ouais. Voilà. Oui, voilà, bon, en fait c'est bon, un truc qui peut se comprendre. Vous sortez d'un quartier, vous émergez, vous disparaissez du quartier, et les gens vous disent « tu nous as abandonnés ». C'était ça le message.
Oui, puis il y a un vieil adage biblique, nul n'est prophète en son pays.
Et nul n'est prophète en son pays, exactement.
Alors que quelque part, on t'a pris pour un prophète un peu.
Je sais pas.
Si.
C'est beaucoup là quand même.
Ah oui, c'est beaucoup, mais sur la base des textes que t'écris dans les chansons, alors moi je sais pas. Oui, bon, j'avais tous les défauts, menteur comme un dentiste comme il faut. Hein. Ouais, la radim, c'est un truc, les gens ils ont cherché partout dans les dictionnaires, qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être tamazigue, peut-être, parce que c'est pas un berbère comme les autres, c'est un kabyle, bon, j'ai bien cherché.
Mais c'est-à-dire que voilà, moi, quand j'ai voulu me chercher à me connaître, j'ai dit, tiens, mais moi c'est pas la radim. Moi, je suis toulousain, donc pour moi, ce mot arabe, c'est Walala Radim. Et donc, on cherche tout le temps des mots qui nous créent un territoire. Parce qu'on se cherche un espace à soi. Et donc, on prend un peu d'Occitanie, un peu de Kabylie. On se fait comme ça. On se fabrique des parfums, on se fabrique des mots.
Des racines ?
Oui, bien sûr. Parce que quand elles n'existent pas, quand elles ne sont pas là, dans le réel, vous fabriquez un imaginaire qui est à vous. Et je pense que les exilés sont comme ça, ils ont dans leur tête comme ça un monde à eux, quand ils ne l'est pas à eux. Et c'est souvent d'ailleurs que, je dirais surtout les minorités de quelques peuplades que ce soit, ont toujours l'impression qu'on voudrait qu'elles disparaissent. Les gens voudraient faire disparaître les minorités comme si elles représentaient un danger, alors qu'elles sont tout le temps une richesse, puisque c'est les minorités qui font des richesses et pas la majorité.
On est en train de découvrir ça aujourd'hui avec la culture bio, c'est la biodiversité qui préserve l'avenir. Et finalement, les origines multiculturelles ouvrent les gens. D'abord, ne serait-ce qu'à la pratique de langue, mais c'est mieux vu quand c'est français-anglais, quoi.
Voilà. Après, parce qu'on a peur. On a peur de l'autre. On a peur de celui qui est différent. Et on a fait, finalement, on n'a pas appris aux gens à ne pas avoir peur.
Oui, il faut dire que les maghrébins, ils mangent les petits-enfants, c'est bien connu.
Oui. Et cru.
Oui, cru en plus.
Parce que vous n'allez pas croire qu'on cuit. Et donc voilà, finalement, la quête de la fraternité, c'est pas un don du ciel. C'est un combat et on a oublié que tous ces bons sentiments à laquelle on aspire, il suffit pas, voilà, de choses incantatoires. C'est un combat, c'est de l'éducation, c'est de l'initiation.
Et en plus, c'est fragile, non ? Enfin, je sais pas, moi. Peut-être tu te souviens des années où c'était normal qu'on se mettait sur le bord de la route avec le pouce levé et que quelqu'un allait s'arrêter. Pas le premier, peut-être qu'un sur dix, mais il suffisait d'un. Et aujourd'hui, les gens en voiture, quand ils voient quelqu'un sur le bord de la route, ils font de la morphopsychologie. C'est-à-dire, si c'est une nana toute seule, il y a forcément un mec caché derrière l'arbre. Et si c'est un mec louche, barbu, etc., il va sentir mauvais.
Oui, je pense qu'on a beaucoup plus peur, parce qu'on a beaucoup plus peur de l'avenir. Et les années dont je te parle, les années 80, il restait quelques bouts des lambeaux de rêve d'un monde fraternel. Et les gens pensaient que il y a une façon de faire une révolution, ou par les armes, ou par l'éducation, qu'il y avait la possibilité d'une révolution dans le sens littéral du terme, des mœurs. Et ça n'a jamais eu lieu.
Ça n'a jamais eu lieu, mais quand même, avec ton écriture et tes textes des premiers albums de Zebda, on s'aperçoit qu'il y a une inspiration claire, et en même temps une projection vers ce monde de fraternité.
Oui, une inspiration, je te l'accorde. Et on était beaucoup, peintres, journalistes, universitaires, chanteurs de rock, à avoir préconisé une république cosmopolite, un vivre ensemble, l'idée que le mélange, qu'on était pour le mélange, pas que pour le mélange, mais parce qu'il était, inspirateur de modernité. Et que le mélange faisait la modernité, et que donc elle ouvrait un avenir pour nos enfants. Et c'est pas un message qu'a convaincu, c'est le contraire qu'a convaincu.
Ah ben c'est sûr.
Parce que les rêves sont morts en route.
Avec Bernard Tapie, ministre de la Ville.
Ah ben ça fait mal.
Ouais, ça fait, c'est curieux, hein,
ouais,
quand même.
Ouais, ouais. Voilà. Oui, je pense que c'est exactement, c'est ce genre de choses qui ont fait beaucoup de mal à l'espoir de la fraternité.
Oui, parce que de la même manière qu'il y a une écrasante minorité voilà. de ces francs qui vont acheter un billet de loterie nationale parce que pour eux, ils seront sortis de la merde s'ils gagnent le gros lot.
Ouais.
Ben, de la même manière, il y a quand même des gens qui disent où est-ce qu'on peut mettre l'espoir, et si c'est si fatigant de le construire parce que comme un château de cartes, c'est vachement plus vite tombé que construit.
Exactement.
Ben quoi, on se dit, il faut cultiver son jardin, moi j'y crois plus, je m'abstiens.
Les gens pensaient qu'il y avait une idée pour faire la fraternité. Donc à gauche, on l'a pensé comme ci, à droite, on l'a pensé comme cela. Et puis tous se sont usés de ne pas voir dans quelque camp que ce soit apparaître une douceur, une fraternité, une humanité. Et donc la dernière idéologie, là, c'est le hasard. Si je joue au jeu de hasard, je tente la voyante, je tente le fer à cheval, le trèfle à quatre feuilles.
Les golden boy des années 90 aussi.
Voilà, et le dernier objet en date s'appelle Marine Le Pen. Ok, elle est condamnée tous azimuts, mais et plus elle sera condamnable, et plus on voudra d'elle, parce que c'est le signe de renouveau.
Oui, bon, il rit avec ça. Tiens, ça t'apprendra.
Allez, envoie-moi quelque chose.
Redemption.
Mistral gagnant de Renault, puis Redemption Song de Bob Marley, les choix de Magid Cherfi, d'invité de qui c'est celui-là. Pourquoi ?
Alors évidemment, Renault, c'était la révélation de l'écrit. Parce que j'écrivais beaucoup et je pense que c'est moi qu'il fallait. Parce que j'étais quand même d'un grand classicisme dans mon écriture, que j'ai beaucoup gardé, où j'essaie quand même un peu de m'en détacher. Et tout à coup, à l'adolescence, je vois arriver ce mec qui parle comme on parle dans la rue. Et ça te parle et ça te touche plein cœur. Et il ouvre des portes, il dit, mais il te demande pas d'être Baudelaire. On te demande pas d'être Baudelaire, on te demande d'être Magid. Oui, mais c'est quoi Magid? Ben regarde, lui, c'est Renaud. Il fait Renaud. Et donc, ça vous aide à vous dire, ah ouais, mais il faut que j'arrête d'essayer d'être un poète. Il faut que j'essaie d'être moi. Et que la vérité dans la vie, dans quoi que ce soit qu'on fasse, c'est d'essayer d'être soi. Et c'est pas le plus facile.
Oui, parce qu'à la fois, il faut être content de ce qu'on a accumulé de manière scolaire, hein, parce que c'est grâce à ça qu'on a connu les classiques, et voilà. Puis il faut en sortir pour redevenir soi. Effectivement, Renaud, comme Souchon pour un peu plus tôt, c'est des gens qui prennent des images avec des mots de tous les jours, et qui en font un truc qui est éternel, parce que Mistral gagnant, moi je crois que c'est la chanson classée, préférée, fout des concours, mais quand même, elle parle à tout le monde.
Et moi, elle m'a foudroyé. Et quand on se retrouve à des wagons de gens foudroyés, il y a quelque chose qui parle.
Bon, et t'as pas osé quand même nous dégainer un Brassens parce que c'est trop difficile de faire un choix.
Oui.
Je suis sûr.
Oui. Je sais plus,
Et là, il y a quelqu'un qui te dit, dans ma part de Goulop, arrête de bouffer du Brassens, il y a autre chose, il y a Bob Marley.
Il me dit, mais tu vas finir par devenir français.
Oui.
Évidemment, oui, j'ai eu l'obsession Brassens, et moi j'ai eu une espèce d'optique comme ça, très littéraire, et donc il me faut lire le premier sens, le ce qu'il y a derrière les phrases, sous la phrase, de l'autre côté de la phrase, et parce qu'il a réussi Brassens à amalgamer l'intelligence, la finesse de l'esprit, le second degré, la tendresse, la passion, la douleur.
Non, je t'ai plus.
Ouais.
Et alors, la rencontre avec la musique qui fait que les mots, du coup, le travail sur les rimes, ça sonne. Comment ça s'est passé? C'est au Gisar toujours, hein. On est toujours dans la rencontre entre l'écriture et le fait qu'on va mettre des trucs dessus, quoi.
Mon père aimait beaucoup la musique. Alors déjà, tout môme, il y a déjà quelqu'un qui est là avec son Tepaz et qui passe des chansons kabyles des années 50.
Alors Tepaz, les jeunes, c'était un crin-crin qui permettait de lire des vinyles.
des 78 tours, je crois, à l'époque, quand même. Ou non, peut-être
des 33. Non, pas le gramophone, pas quand même.
Non. Je voulais faire un peu la légende. Mais, évidemment, quand vous êtes dans un milieu où mon père était un fou de musique, et je pense que il a traîné avec une amertume infinie de pas avoir été musicien ou de partir sur la route. Et d'ailleurs, quand il était môme, il suivait les troupes dans les montagnes kabyles, calées de village en village, des mecs avec des flûtes et des darboukas. Et on m'a dit ça, on m'a dit, voilà, il est orphelin de mère et donc assez libre dans sa vie. Et il partait. Et deux, trois jours de marche, aller dormir chez telle tante, tel oncle. Et il suivait les et finalement, moi, j'ai fait la même chose 40 ans après, en étant moi-même sur la route, avec des musiciens. Et donc, il vous faut être imprégné de ça.
Oui, mais t'as quand même le souvenir du premier texte qui est mis en musique, ça doit faire quelque chose, ça.
Du premier texte mis en musique, je sais plus, non.
Ah, hein?
Ouais. Non, si, on a fait du James Brown. Parce qu'au départ, on imite. À moins d'être, quelqu'un qui a une totale inspiration de soi, ce qui n'était pas du tout mon cas. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, il m'a fallu un marteau et un mur de charbon, quoi. Donc il m'a fallu casser la roche pour m'extraire. d'autres pas, d'autres c'est là, la chose est là. Et donc, voilà, il m'a fallu beaucoup chercher. Donc, on a fait Elvis, on a fait du Johnny Hallyday, on a fait du Police, on a fait du... beaucoup de rock.
Et le public était là.
On jouait dans des bars.
Ouais.
Donc voilà, c'était des... comment appelle-t-on ça?
Oui, mais dans les
bars, reprises.
On le sent tout de suite, si ça branche les gens ou s'ils tournent à la tête.
Oui, parce qu'on... on y a mis beaucoup de cœur. Donc les gens ont adoré voir des musiciens qui se donnent à fond. Et nous, on était à 200%.
Bon, mais le premier texte de toi sur lequel il est travaillé, une musique, c'est comme ça que tu le voyais ou t'as
accepté
que
les musiciens... Non, c'était un long travail. J'ai écrit des chansons de merde, des trucs qui s'appelaient Tumba, Umba, 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 Tumba, Umba, Umba. Parce que comme je me suis posé... Ça peut être sympa, mais je me suis longtemps demandé, mais qu'est-ce qu'on chante? Qu'est-ce que Magie doit chanter? Donc j'étais avec deux copains du quartier, Hakim et Mousse, et quatre potes de lycée, blanc, gaulois et catholique. Et qu'est-ce qui fait le pont entre nous? Et il a fallu du temps pour trouver le...
Le
texte qui...
Et le détour par vite écrit, par la mise en scène, en fait, par une représentation au départ d'un groupe de jeunes qui ferait de la musique, etc. Ouais. C'est-à-dire, il faut passer par la fiction pour le réel.
Exactement.
C'est extraordinaire.
Exactement. On est passé par la fiction parce qu'on avait besoin de... Comme de passer à travers un sas. Et parce qu'on ne se connaissait pas nous-mêmes, on ne savait pas qui on était. Et donc, on était une espèce de bouillabaisse comme ça, je chante du... Alors voilà, alors, je suis Brassens ou je fais les Rolling Stones. Je pars en guitare sèche ou je fais du boucan avec des mecs parce que j'adore le boucan. Et on chante l'amour, la colère, on revendique en politique ou on est dans l'intime. Et tout ça était à l'intérieur. Et donc, il a fallu faire un tri et trouver une espèce de compromis. De compromis parce qu'il fallait que chacun d'entre nous se trouve une place dans cette histoire.
Alors, c'est toi qui lâches le mot compromis. Ouais. Est-ce qu'en politique, c'est pas quelque chose que tes copains un peu te reprochaient?
Totalement. Parce qu'au fond, je crois que j'ai toujours
toi,
été...
Toi, t'es pas du passé table rase.
Non. Non. Justement. J'ai fait semblant. Quand j'étais membre, parce que j'étais avec des potes qui le proposaient, et comme j'avais envie de rester avec eux, parce qu'ils étaient généreux, ils étaient sympas, ils étaient intelligents, ils pensaient le monde, et je lui dis, c'est bien d'être avec vous. Donc j'ai joué le jeu pour accompagner les différentes bandes avec qui j'étais. Mais je savais qu'au fond de moi, j'étais le prototype du compromis. Et donc ça déplaisait beaucoup que je ne porte pas de radicalité. Et alors j'ai longtemps joué une fausse radicalité pour faire corps. Et puis au fil du temps, je dis non, moi les amis, je suis... pour des synthèses un peu à la Hollande, si tu veux, mais en rebeu. Et
En fait, tu supportes pas de pas tenir compte du réel, parce que sinon on peut pas le transformer si on n'en tient pas compte.
Je crois. Oui, parce que, tu vois, moi j'ai vécu avec des gens qui ont tapé la misère quand j'étais membre, nos parents. Et nos parents, ils rêvaient pas de partager. Ils voulaient être riches. Et tous les pauvres que je voyais autour de moi rêvaient de braquer des bagnoles, voulaient des grosses bagnoles allemandes, voulaient des maisons avec des piscines, des dollars, des banques, du champagne. Et jamais vu, moi, un pauvre dans mon quartier me dire « Moi, non, je rêve pas de la richesse, je rêve de partager. » Et donc, c'est une réalité qui m'a tout le temps, moi, percuté, d'entendre des gens à qui il manquait rien, qui prenaient le partage, et dans les bas-fonds de la société, de dire, nous, on veut rien partager, on tue père et mère pour avoir le trône. Et je dis, voilà, ben ça, c'est une réalité de pauvre. Et que le partage ne vient qu'après une initiation. Et c'est pas quelque chose d'inné qui vous tombe dessus, en me disant, tiens, toi, tu seras un généreux. Quand on n'a rien, on n'est pas généreux.
Alors, tu donnais la liste de ce dont ils rêvaient, des grandes villas avec des piscines, des grosses bagnoles, des grosses montres, des gros cigares, des grosses bagouses,
ouais.
Et des gonzesses.
et des grossesses.
Parce que, parce que quelque part, l'imaginaire là, qui est plus « je veux gagner plutôt que partager
ouais. »,
on se pose pas la question du tout chez tes copains qu'une femme est un animal comme les autres.
Dans les milieux pauvres, on n'est pas féministe. C'est la même chose. Comme on n'est pas généreux, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des gens modestes qui n'aient pas été communistes, par exemple. Il y avait aussi...
Ou amoureux.
Ou amoureux, absolument. Absolument. Donc, il y a... Ça existait, mais... Il y avait, pour moi, l'immensité pauvre qui rêvait pas de ça, et pour le sentiment amoureux, bon, mais c'est universel, quoi. Après, les filles, sauf que dans les milieux opprimés, on opprime d'abord la femme, et parce qu'on est opprimé soi-même. Et que considérer une femme, eh ben c'est, encore une fois, ça se fait pas comme ça. C'est une éducation, c'est une initiation, c'est un travail auquel on a accès ou pas. Et le grand problème, c'est que, comme quand je parle de mes potes de quartier, moi j'ai eu accès au code de l'érudition, si vous voulez, parce que ma mère était là derrière, parce que j'ai été aidé, mais tout le monde n'a pas été aidé, et donc ça a été la fracture entre mes potes et moi.
Alors, est-ce qu'il y a de quoi aider une thèse de je ne sais combien de cycles d'un étudiant qui irait réfléchir sur les mères des grands écrivains ou des auteurs ou des gens qui ont fait des choses qui sortaient de l'ordinaire et qui leur étaient promis ? Peut-être à contrario, il y en a qui se sont constitués pour se battre contre ce que voulaient que leur mère soit.
Quoi qu'il en soit... Après, on aime ou on n'aime pas sa mère, on est en conflit ou pas avec elle, c'est elle qui vous arme ou qui vous désarme. Donc on peut armer... Moi, ma mère a fait de moi quelqu'un qui a eu accès au code, mais elle a fait de moi quelqu'un qui était porteur d'amertume, porteur de rancœur, la rancœur de sa propre misère à elle, la rancœur d'une société injuste qui donne toujours aux mêmes et pas aux autres. Et donc elle m'a inoculé le mal, l'obscurité donc, et la lumière, le savoir. Et chacun d'entre nous a sa part de lumière, sa part d'ombre, parce qu'une mère ne vous fait pas immaculé homme. Elle vous donne ou pas. Il y en a qui donnent rien. Il y a des mères qui donnent rien. Il y a des mères qui détruisent leur progéniture. Et quant à celles qui aident à l'émancipation de leur propre môme, c'est pas pour autant qu'ils sont des anges. D'ailleurs, il faut souvent apprécier l'œuvre que l'homme.
Aïe, peut-être suis-je trop vieux, trop ringard, trop rebeu. Il me faudrait un label. Trop rebeu, non, là je vire parano. Quoique, je cherche des beurres dans la chanson française, voilou. Pas un frisé, pas un basané, rien. Il n'y a que des Michel, des Mathieu.
Ouais.
C'est quoi ça?
Bah, je crois qu'il faut garder une part de subversion, une part de méchanceté. C'est ma part de colère. Et c'est vrai que les gens nous aiment quand on est...
Le reflet de ce qu'on est vraiment.
Je sais pas. En tout cas, c'est, voilà, on aime une forme de douceur comme ça chez quelqu'un qu'on a envie d'apprécier. On veut l'aimer doux. Et voilà, moi, ma part de colère, c'est dire oui, ça fait près d'un demi-siècle que nous chantons. Et chaque fois qu'on parle de chansons françaises, il s'agit d'un Mathieu, d'un Michel, d'un Claude, je ne sais combien de prénoms français, et que nous n'existons pas, nous, gens de la diversité, dans la chanson française. En tout cas, pas dans l'inconscient collectif.
Et c'est vrai, il n'y a pas de label pour Magie de chère fille, je ne crois pas ça.
Oui, il n'y a pas eu de label, mais en ce qui me concerne, c'est aussi toute la mécanique ultralibérale. Quoi. Tu vends, on te prend, tu vends pas, t'es pas vendeur, on te prend pas.
Bon, en même temps, le 31 mars, avec catégorie Rennes, tous les fans de Magie de chère fille sont contents de le retrouver avec de belles inspirations. Et à mon avis, il y a des chansons qui passeront le cap de la diffusion radio, hein, parce que par exemple les filles d'en face, on est complètement dans la même écriture que ma part de Gaulois, et on a l'impression de vraiment une historiette, et on l'y voit. On l'y voit, le clan des garçons, le clan des filles.
Oui, mais de toute façon c'est la BO de ma part de Gaulois, parce que j'ai composé l'album en même temps que j'écrivais, donc les thématiques étaient là tout le temps. Et je me suis rendu compte un peu sur le tard que j'écrivais la BO du bouquin.
Mais ça marche bien, c'est une super inspiration. Et du coup, il y a des trouvailles en termes d'image. Hein.
Ouais, non, je suis assez content des textes. Hein, c'est...
Donc à partir du 31 mars, Magie de chère fille, sur toutes les chaînes.
Sur toutes les chaînes, pas mal de radios, voilà, et de 12 chansons absolument délicieuses, à mon goût.
Bon, ben ce soir à 19h30 à Vaour, il n'y a que ceux qui auront pris la précaution de prendre des places suffisamment tôt pour pouvoir y venir, mais il y a la place.
Ce n'est pas un concert ce soir.
Non, ce soir c'est longue haleine. Voilà. C'est longue haleine.
Donc il y a quelques chansons.
Au piano.
Un piano-voix.
Voilà, piano-voix avec... c'est quoi d'ailleurs? C'est un univers d'une espèce de nostalgie,
oui.
D'une douce France.
Oui, absolument, oui. Moi, je me suis identifié à de la vieille France. Parce que c'est de cette époque-là que je me suis constitué. Là, j'avais des instituteurs en blouse grise qui m'ont dit en classe, la République... respecte chacun de ses élèves, quelle que soit la couleur de sa peau, sa religion, son origine sociale. C'est l'honneur de la République que de vous traiter d'égal à égal. Et croyez-moi, quand vous n'êtes pas traité dans la rue d'égal à égal, ça vous marque.
Ah bah oui, vous
et
avez...
Donc cette école m'a marqué.
Vous avez vos papiers?
Ouais, ouais. Ça c'est la rue.
T'as tes papiers.
Hein, et tes papiers.
Voilà, et carte de séjour, à l'époque, qui reprend Douce France, c'est complètement cette inspiration.
Absolument.
C'est très chouette d'avoir eu pendant une heure, Magide. C'est très sympa d'avoir fait le détour avant d'aller à Vaour, où très vite, là, tu vas faire les balances, tout bien professionnel et tout. Merci beaucoup.
Merci, Johan. Aïe, putain de mauvais sort. Aïe, si jamais je m'en sors. Aïe, putain de mauvais sort. Aïe, si jamais je m'en sors. Je vous dis pas. Oh, dans ma petite Amazonie, elles ont dans les oreilles un Sony. Les filles aux pieds une chaîne. Oh, elles en pincent pour le hip-hop. Qui les traite un peu de salope. Pour qui voulez-vous qu'on les prenne? Beethoven est pas dans les envies. Ivochi dans le R&B. Il est bon que pour le solfège. Oh, y'a des petits chanteurs français. Mais avant qu'ils te fassent danser, il en est tombé de la neige. Aïe, putain de mauvais sort. Aïe, si jamais je m'en sors. Aïe, putain de mauvais sort. Aïe, si jamais je m'en sors. Je vous dis pas. Oh, dans ma petite Amazonie, toutes les souris sont punies par le tribunal des coursives. Elles ont les ongles affûtés pour des connards qui disent pas bonjour. Mais par contre, qu'est-ce qui salive? Oh, des garçons pas des inconnus, qu'ont peur de les voir toutes nues au bras de celui qu'elles préfèrent. Et ils habitent juste à côté, des fois la chambre d'à côté. Les autres appellent ça des frères. Aïe, putain de mauvais sort. Aïe, si jamais je m'en sors. Aïe, putain de mauvais sort. Aïe, si jamais je m'en sors. Je vous dis pas.
Bonjour.
Qui
c'est celui-là?
Il a une drôle de tête, ce type-là.
Une émission d'entretien.
Et puis sa bagnole, les gars.
Avec quelqu'un.
Les gars. Ça se passera.